n'ira pas aller chercher les enfants handicapés pour faire des activités. C'est nous, parents, avec des associations ou d'autres structures, qui devons faire le nécessaire.
Il n'y a rien à faire. Du coup, on propose un accueil jeune. Tu peux venir ici pour te détendre ou pour t'amuser.
Ce que j'aime dans la lecture, c'est que quand on met de l'émotion dedans, c'est comme si on faisait aussi du théâtre.
Il y a pas mal de personnes qui pensent comme nous sommes des étrangers. Il y a plus de négativité que de positivité en nous. On est venu ce soir pour montrer notre face positive.
On passe du stade d'un combat féministe à vraiment à un combat sociétal.
À vous, les Burgiens. Présenté par Inès Lombartet et Audrey Radondi.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Inès.
Bonjour Audrey, bonjour à tous. Cette semaine, c'est la semaine de la presse et des médias à l'école et nous sommes allés à votre rencontre. Comment vous vous informez? Comment reconnaissez-vous une information fiable? Vos réponses dans quelques minutes.
Notre invité est enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication. Il travaille sur l'émergence en France de la pratique radio dans les prisons.
On part à la découverte de Velios, une jeune entreprise qui commercialise des abris pour recharger des vélos électriques avec l'énergie solaire, une fabrication locale.
Et tout de suite, votre actualité en bref.
Bourque, en bref.
Une 10e journée nationale de mobilisation contre la réforme des retraites.
Ce sera ce mardi 28 mars à Bourg-en-Bresse. La manifestation partira toujours du champ de foire à 14h30. Jeudi dernier, pour la 9e journée de mobilisation, environ 8000 manifestants se sont réunis. Certains sont allés devant le parvis de la gare de Bourg-en-Bresse et des altercations avec les forces de l'ordre ont eu lieu. La préfète a dénoncé des violences physiques et verbales envers la police de la part de certains individus. 3 personnes ont été interpellées. Les manifestants, eux, ont été choqués de la réponse disproportionnée des forces de l'ordre qui ont lancé des gaz lacrymogènes dans la foule sans sommation, atteignant aussi les passants.
34e édition de la semaine de la presse et des médias à l'école.
Nous étions à Belley cet après-midi pour rencontrer des élèves du lycée général et du lycée professionnel. Nous avons échangé sur le métier de journaliste, le chemin de l'information ou encore les infox. Et vous, comment vous vous informez? Philibert, en stage à la radio, est allé à votre rencontre au marché de Bourg-en-Bresse.
Comment vous vous informez?
Je m'informe en général avec la radio.
Moi, je m'informe avec Google, tout ça, enfin, l'actualité qu'il y a sur le site.
Donc vous utilisez Internet?
Oui.
Et pourquoi vous utilisez Internet?
C'est un outil commun que tout le monde utilise. Je sais pas, ça nous permet de suivre l'actualité, c'est pour ça que je l'utilise.
Alors moi, je vais sur YouTube, ou alors sur d'autres plateformes, donc des réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc. Ou même tout simplement sur Internet.
Donc vous utilisez Internet pour vous informer, mais pourquoi vous utilisez Internet?
Parce que c'est une plateforme d'échange en ligne où il y a des millions de données où on peut trouver tout type d'informations qui sont plus ou moins importantes selon ce qu'on recherche.
Utilisez-vous Internet pour vous informer?
Non.
Pourquoi?
Parce qu'il y a trop de choses qui ne m'intéressent pas sur Internet.
De temps en temps pour confirmer plus des informations que pour avoir l'information pure.
Que pensez-vous des informations relayées sur les réseaux sociaux?
J'en pense rien du tout. Vraiment rien du tout.
Pourquoi?
Parce que c'est souvent exagéré par rapport comme on voit pour ce qui se passe pour les manifestations. Si vous regardez les réseaux sociaux, si vous regardez certaines choses, on s'aperçoit que c'est exagéré, c'est souvent activé par des milieux politiques, etc. Donc non, ça ne m'intéresse pas.
Il y a des sites spécialisés, enfin sur les réseaux sociaux, il y a des comptes spécialisés, des journalistes, et eux, on peut s'y fier, mais ce qui est publié par des amateurs, c'est évité, quoi. Il n'y a pas de source.
Il y en a qui sont vraies, et elles sont bien expliquées, et il y en a d'autres qui sont complètement fausses, et malheureusement, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus fiable, les réseaux sociaux.
À prendre avec beaucoup de pincettes, parce qu'à mon avis, il y a quand même beaucoup de ce qu'on appelle des fake news.
Selon vous, comment on reconnaît une information fiable?
Fiable, on sait bien que tous les réseaux, même de radio, sont plus ou moins, un petit peu actualisés par le gouvernement. Donc, il y a certaines radios, moi je suis souvent sur France Info.
Ouais.
Qui fait une information brève, mais une information. Après, effectivement, ça peut être
ça peut être un petit peu enjolivé, etc. Donc, information fiable, je dirais la radio, toujours. La radio, oui. Surtout pas c'est CNN ou BFM TV, par exemple.
Ok.
Pour vous donner un exemple concret.
Moi, je pense qu'il faudrait la rechercher sur plusieurs endroits. Il faudrait aller non seulement sur ces réseaux sociaux, voir par exemple cette information, ou alors il faut aller la rechercher sur Internet.
Déjà, si c'est une information qui est diffusée sur plusieurs médias, et puis en prenant le temps de réfléchir à ce qui est écrit derrière.
Merci aux personnes qui ont répondu à Philibert en stage à la radio.
Une médaillée aux Jeux paralympiques invitée par la JL Bourg.
C'était dans le cadre des rencontres du leadership. Ludivine Munoz, multiple médaillée en natation et représentante du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, était invitée. Un échange en visio, son train étant annulé.
Si on parle de la médiatisation des Jeux paralympiques, souvent on dit que c'est pas assez médiatisé. Est-ce que vous voyez qu'il y a quand même une évolution ?
Il y a une très grande évolution, surtout si on part des années 96. Moi j'ai peu de background avant, mais de 96 à 2004, il y avait déjà eu une belle évolution. Et alors là, c'est incomparable ce qu'on a pu vivre il y a 20 ans et aujourd'hui. Après, on pourra toujours dire, et je partage cet avis, que c'est pas suffisant. Voilà, ce ne sera jamais suffisant pour permettre à chaque athlète paralympique d'aujourd'hui d'avoir un minimum d'accompagnement financier de la part des sponsors, de la part des entreprises et aussi une reconversion derrière, ce qui est globalement attendu de tout sportif de haut niveau. Donc on attend toujours plus. Aujourd'hui, c'est la médaille qui permet à l'athlète paralympique d'être médiatisé. Mais avant d'avoir cette médaille, surtout la médaille paralympique, il y a du boulot, il y a des Coupes du Monde, des Championnats du Monde, et ça nécessite un accompagnement.
Depuis les JO de Pékin en 2008, une médaille paralympique rapporte autant qu'une médaille olympique. Les Jeux paralympiques de Paris ont lieu du 28 août au 8 septembre 2024. Les prix des billets seront moins chers que pour les Jeux olympiques. La billetterie va ouvrir à l'automne. Et nous sommes à moins de 500 jours du début de ces JO de Paris 2024.
Une préparation de l'oral du brevet et du grand oral du bac à la MJC.
Les 12 et 13 avril, les collégiens et lycéens peuvent venir à la MJC de Bourg pour suivre des ateliers de préparation de l'oral. Cette session de deux jours est ouverte aux élèves de la 3e à la terminale et elle coûte 70 euros. Vous pourrez écouter un reportage sur ces ateliers dans quelques semaines dans votre émission « À vous les Burgiens ».
Une conférence gesticulée sur l'enfermement.
L'association Sarabande présente un spectacle entre théâtre et conférence sur une histoire de parloir à trois personnages. C'est à la salle communale de Journan le 1er avril à 20h30. Plus de renseignements au 06 72 95 95 73.
Une chasse aux œufs solidaire au domaine de la Garde.
Le 5 avril, dans le cadre du Printemps de la Solidarité Mondiale, une chasse aux œufs est organisée en lien avec le Secours Populaire notamment. C'est 5 euros pour les enfants, pour le permis de chasse et une collation. C'est le mercredi 5 avril de 14h à 17h au domaine de la Garde. Information auprès du Secours Populaire de l'Ain.
L'invité de Radio B.
Notre invité est enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication. Il travaille sur l'émergence en France de la pratique radio dans les prisons.
Je m'appelle Jérôme Thomas, je suis enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication à l'université de Reims.
Depuis quand vous travaillez donc sur cette thématique donc des détenus ?
Je travaille sur la question pénitentiaire depuis, je dirais, 5 ans. J'ai commencé à m'intéresser à la question pénitentiaire, à travers la profession de surveillant pénitentiaire. De fil en aiguille, en fait, en étant un partenaire de l'administration pénitentiaire pour mener les recherches, je me suis intéressé à d'autres thématiques, en particulier ce qu'on a appelé avec ma collègue Martine Herzog-Evans, qui est aussi enseignant-chercheur à l'Université de Reims, le capital politique des personnes détenues, c'est-à-dire leur intérêt pour la question politique et la contribution en fait, de cet engagement citoyen dans le parcours de la personne détenue, la réinsertion, etc. Voilà. Et puis, plus récemment, je m'intéresse, dans une recherche qui est menée en collaboration avec une collègue espagnole, à un phénomène très développé en Espagne et émergent en France, que sont les radios pénitentiaires, c'est-à-dire des radios faites par les détenus et diffusées la plupart du temps sur les ondes de radio locales et associatives, comme il me semble que c'est le cas pour Radio B.
Alors dans votre étude, quand c'était donc quand les détenus ont été autorisés à voter en détention, vous leur avez posé notamment une question de comment ils s'informaient sur la question politique. Qu'est-ce qui est ressorti de ces entretiens ?
C'était déjà de s'apercevoir qu'il y avait une consommation médiatique qui était importante de la part des détenus. Alors pas forcément la consommation d'informations politiques, mais en tout cas une consommation de télévision, du média télé qui était extrêmement important. Donc déjà en termes de quantité, ça c'est quelque chose qu'on a récupéré comme données auprès des personnes détenues qui étaient importantes. Ensuite, évidemment, on leur a demandé un petit peu quel était le type de contenu auprès desquels ils s'informaient. Et là, on a plusieurs types de réponses, mais il y a une réponse majoritaire qui nous a beaucoup interpellés. C'est que quand on leur demandait quelle était l'émission politique qu'ils pouvaient préférer ou qu'ils regardaient le plus, ils nous parlaient d'émissions de talk show, de débat, type « Touche pas à mon poste » sur C8. Alors ça, c'est quelque chose qui, effectivement, nous a beaucoup étonnés, parce que pour nous, avec notre regard de chercheurs, ce n'était pas de l'émission de débat politique. C'est plutôt de la simulation de débat sur des thématiques de société, il est vrai, mais pas... dans un journalisme, je ne sais pas comment on pourrait le nommer d'ailleurs, mais
un journalisme qui fait se confronter des avis différents.
Ouais. Alors après,
voilà, il y a des avis différents aussi, mais il y a une mise en scène.
C'est ça.
C'est plus dans ce sens-là, je pense, la différence.
Voilà, ce qui attirait énormément, c'était la mise en scène plus que les idées débattues.
Et quand on est chercheur et qu'on se rend compte de cette façon-là de s'informer des détenus, qu'est-ce qu'on fait avec ?
Alors déjà, on essaye de voir si cette réponse spontanée, ça ne cache pas un peu plus de complexité. Ça déjà, c'est la première chose à faire, c'est l'éthique du chercheur. Et donc, ce qu'on découvre quand même, et c'était aussi une part très intéressante de la recherche, c'est que les personnes détenues, dans les thématiques qui les intéressent, c'est beaucoup l'actualité internationale et des aspects géopolitiques. Ah, donc ça aussi, c'est quelque chose d'assez singulier, qui nous a paru très important de noter. Et puis, on a pu aussi repérer que certains détenus avaient de l'intérêt pour certains médias type Arte ou la chaîne parlementaire qui... apporter des contenus plus qualitatifs. Donc il y a une diversité, et puis quand on est chercheur, il y a toujours cette question-là, c'est qu'est-ce qu'on me dit au départ pour satisfaire le chercheur, qu'est-ce qu'on me dit pour coller à une image qu'on attend de moi. Donc c'est vrai que mobiliser l'émission de Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste, comme une émission politique, c'est aussi se représenter face aux chercheurs d'une certaine manière, avec un profil sociologique et psychologique particulier qu'on pense être valorisable, quoi, parce que c'est aussi quelque chose qui est valorisé dans ce que les sociologues ils appellent la sous-culture carcérale, quoi. Donc il faut toujours aussi aller un tout petit peu plus loin pour faire tomber ces réponses spontanées qui sont des réponses quand même qu'on conserve, parce que si elles arrivent spontanément, c'est que ça a une valeur, mais pouvoir observer quelles sont les pratiques médiatiques qui sont un peu plus alternatives et qui arrivent à se confier quand on va un peu plus loin dans l'entretien, ou quand on laisse par exemple des zones de libre expression après une réponse à un questionnaire, quoi.
Donc ce que vous dites, c'est que certains détenus vont par exemple choisir certaines émissions pour, c'est un côté social, pour s'intégrer plus facilement.
Ouais, on pourrait dire ça, c'est une manière de manifester...
une appartenance à un groupe.
Ouais, une appartenance à un groupe. Ouais, c'est ça. Et puis après, c'est pour ça qu'il faut du temps quand on fait de la recherche. Il faut pouvoir laisser la place à la parole, revenir sur sa parole, apporter des précisions. Et ce qu'on découvre, hein, c'est que les personnes détenues sont aussi des citoyens comme les autres et qui s'informent sur les grands problèmes de société auprès de médias de divertissement et puis auprès de médias plus classiques, qualitatifs. Et avec ça, ils se font leur opinion de citoyens pour ensuite fonder ce qui leur a été offert récemment là, pour les présidentielles, leur acte de vote qu'ils ont pu exercer en détention. Quoi.
Alors, on a parlé de la télévision. Quel est le rapport en centre pénitentiaire avec la radio ?
Alors, le média qui est quand même le plus consommé, c'est indéniablement la télévision. Hein. Je ne saurais pas vous dire quels sont les taux d'audience de la radio en détention, ni si la radio est beaucoup écoutée en détention, parce que je n'ai pas connaissance d'études très précises sur le sujet, et puis ce n'est pas des choses que j'ai travaillé auprès des personnes détenues. Ce qui est sûr, c'est que y a des expériences de radio qui se développent, qui sont faites par les détenus. Donc ça, je pense que c'est un dispositif intéressant, parce que c'est un dispositif de prise de parole publique dans une expression qui est normée, qui est celle de l'expression journalistique. C'est encore un petit peu timide aujourd'hui en France. C'est très développé en Espagne et c'est fait partie d'un objet de recherche que j'ai en ce moment et qui est encore à défricher largement.
Et qu'est-ce que vous avez déjà pu observer ? Vous dites que c'est beaucoup plus développé, la pratique de la radio en pénitentiaire en Espagne. Qu'est-ce que vous avez déjà pu observer ?
Alors déjà, le premier point d'observation, c'est qu'en Espagne, il existe des studios qui sont installés à demeure dans les établissements pénitentiaires. Donc ça, ça montre quand même qu'il y a une volonté de l'institution pénitentiaire espagnole de développer des compétences des détenus à partir de l'exercice de la pratique médiatique. Mais même au-delà de ça, il y a l'idée que l'activité de radio, c'est une activité citoyenne, mais c'est aussi une activité thérapeutique. C'est aussi une activité de parole. Et puis, c'est une activité aussi qui est intéressante parce que on présente sa voix, mais on ne présente pas son visage, ce qui est un bon compromis aussi pour l'administration pénitentiaire. Et puis, c'est une manière de connecter l'intérieur et l'extérieur de manière différente. Donc, tout ça, c'est pris en considération par l'administration pénitentiaire espagnole et c'est en train, je trouve, à mon sens, d'être découvert par l'administration pénitentiaire française, qui est, semble-t-il, un peu réticente, hein, peut-être par faute de moyens, hein, de développer ces expériences, mais on en comptabilise de plus en plus.
Grâce à cette nouvelle étude, Jérôme Thomas et sa collègue veulent apporter des connaissances supplémentaires sur comment prendre la parole en détention, un espace contraint et surveillé.
Ça fait très plaisir de voir autant de cyclistes réunis à Bourg cet après-midi.
Là, on est sur des arbres qui ont un peu plus de 100 ans, 120 ans.
En reportage avec Radio B.
Un abri pour vélo électrique fabriqué dans l'Ain.
Son nom, Velios. Son premier prototype est installé dans les locaux de l'entreprise Stemi, spécialisée dans l'électricité industrielle. Cet abri fonctionne à l'électricité solaire et permet de charger votre vélo électrique.
Bonjour, Charline Renaud. Donc, je suis en charge du développement de Velios, une entreprise qui est née au mois de juillet 2022 suite à un groupement d'entreprises qui a travaillé sur le projet. Ce groupement avait été à l'origine un groupement d'entreprises qui travaille sur le bâtiment, donc conception, rénovation et maintenance de bâtiments industriels. Avant le Covid, ils ont eu beaucoup de demandes pour les abris vélos. Ils ont mutualisé leurs besoins et ils ont décidé de se différencier en ajoutant cet aspect photovoltaïque pour proposer un abri autonome pour les vélos électriques. Et en plus de proposer l'option, on va dire, autonome de l'abri, ils ont ajouté cette option déplaçable, donc ce qui permet que ce soit un produit qui soit assez innovant en proposant du photovoltaïque, autonomie à 100% pour recharger les vélos, ainsi que déplaçable. Donc ce qui permet pour notre cible, donc collectivité, entreprise et surtout l'événementiel, de pouvoir avoir un produit qui se déplace au gré de leurs besoins et puis des saisons également aussi. Parce qu'on sait que ce sera forcément beaucoup plus utilisé en période estivale ou au début du printemps quand les beaux jours vont arriver plutôt que l'hiver.
Est-ce que donc visuellement vous pouvez nous le décrire cet abri ?
Alors visuellement, donc c'est un abri qui est, on va dire, assez simple, sobre et qu'on a cherché assez épuré. C'est la taille d'un gabarit routier, il fait à peu près 4,50 m par 2 m. Donc au niveau transport, gabarit routier, donc assez simple, il suffit de l'élever par un camion grue pour le poser sur un semi-remorque. Au niveau encombrement, donc il prend seulement la place d'une place de parking. Donc pour les collectivités ou les entreprises, c'est facile, enfin, on n'a pas besoin d'un grand terrain pour être capable d'installer un abri vélo. Donc 6 emplacements pour vélo électrique, trottinette ou véhicule de roue électrique. Il a un coffre de stockage où dedans on retrouve les batteries de stockage, tableau de bord, tableau électrique, 6 casiers. Donc un casier par vélo, des casiers qui sont sécurisés bien sûr, donc qui peuvent être fermables avec différentes options, par clé, par digicode, verrou manuel. Différentes options sont possibles, qui s'adapte forcément au gré des besoins de nos clients. Ça peut aller de la caméra surveillance aux stations de gonflage, les stations pour outils, défibrillateurs, points d'accès Wi-Fi. On propose également un modem, donc ce qui permet un suivi à distance de la consommation de l'abri, donc qui est relié avec une application, donc application mobile ou sur ordinateur. Comme ça, on peut voir en temps réel l'état de la batterie de stockage de notre abri, ce que produit chaque panneau en fonction de l'ensoleillement. Et du coup, ça permet aussi d'optimiser l'emplacement de l'abri ou mieux le placer à un autre endroit sur le terrain.
Et concrètement, donc le vélo, il est rechargé en combien de temps, la batterie du vélo ?
Alors, la batterie du vélo, normalement, quand on part le matin avec son vélo, il est rechargé un minimum. Mais nous, notre abri, il est conçu pour 6 emplacements de vélo. Ça a été développé de façon à ce que les 6 vélos puissent être rechargés à 100% grâce soit au branchement direct via les panneaux solaires ou par les batteries de stockage qui captent toute l'énergie solaire qui a été émise par les panneaux photovoltaïques si aucun vélo n'a été branché en même temps. Donc c'est-à-dire que si il y a du soleil en plein après-midi mais qu'il n'y a aucun vélo qui est branché sous l'abri, toute cette énergie elle sera captée par les batteries pour garder cette énergie et pouvoir la retransmettre par exemple par temps de pluie ou la nuit s'il y a des vélos qui viennent se recharger.
Et on peut dire que c'est une innovation, ça n'a pas été fait ailleurs ?
L'innovation, le produit, un abri pour vélo, ça existe. On sait qu'il y a beaucoup d'entreprises, à proprement dit c'est facile de construire un abri pour vélo. Mais nous on a vraiment cherché à se différencier en proposant un abri pour les vélos électriques, qui soit photovoltaïque, donc en utilisant toute l'énergie du soleil, pouvoir recharger ses vélos de façon autonome, pas forcément besoin de le rebrancher au système électrique. Donc ce qui permet forcément aussi en matière de transition écologique d'apporter une réelle valeur ajoutée, que ce soit pour les collectivités qui cherchent à faire des économies, les entreprises qui développent forcément les plans vélos, leur image RSE, ça apporte beaucoup de visibilité aussi pour eux.
Et donc ces abris vélos, est-ce que vous avez déjà eu des commandes, des locations ? Comment ça s'est passé ?
Alors pour l'instant, on a un abri qui a été développé. Il est basé donc dans l'entreprise Stémy en démonstration. De mon côté, je fais également de la prospection donc à travers vers nos différentes cibles, donc collectivités, entreprises, sites touristiques en haute montagne, les stations, les entreprises événementielles aussi. Pourquoi pas aller viser les JO 2024, ce qui serait une vitrine exceptionnelle d'aller là-bas. Et puis, donc je suis surtout en phase de prospection. On a 2-3 devis qui risquent d'être bientôt signés. Après, forcément, au vu de nos cibles, les décisions sont assez longues. C'est tous des budgets à voter, que ce soit côté entreprise ou collectivité. Donc la patience aussi, c'est aussi notre maître mot. Donc on prospecte, mais il faut attendre. Donc au fur et à mesure, on prend nos armes et puis on va sur le terrain. Puis on attend aussi, et on attend aussi de belles commandes. On l'espère, bien sûr.
Donc les personnes avec qui vous allez potentiellement signer des devis, est-ce que vous savez un peu pourquoi ils ont décidé de prendre votre abri ?
C'est parce qu'ils croient au projet, ils voient aussi les changements de mentalité, la vision qu'apporte, on va dire, le vélo. Et de plus, le vélo électrique, de plus en plus de collaborateurs viennent à vélo sur leur site de travail. Donc forcément, vélo électrique, parce que souvent, le trajet, si on remplace la voiture par le vélo, c'est pour faire des trajets assez longs. Donc le vélo électrique, c'est un petit peu plus facile d'utilisation qu'un vélo musculaire. Côté aussi, si je parle côté entreprise, donc image RSE, réduction de l'impact carbone, etc. Les collectivités, c'est aussi dans cette même vision aussi pour côté transition énergétique, réduction des coûts, parce qu'on sait la hausse de l'électricité, on le voit dans l'actualité, tous les problèmes qu'il y a en ce moment. Donc tout ça vient faire qu'on peut avoir des opportunités.
Et donc aussi, il a été fait en circuit court, cet abri. Ça va continuer à être fait de cette façon ?
Une de nos valeurs principales, c'est vraiment ce circuit court, favoriser les savoir-faire locaux. Là, on travaille avec deux entreprises qui fabriquent notre abri, donc la société Perrométallerie et Stémie. Les deux sont basées à côté de Bourg-en-Bresse, donc c'est vraiment une de nos valeurs. On tient à travailler tous ensemble et à rester comme ça pour le moment. Parce que forcément, tout le monde le dit, mais le dire c'est bien, le faire c'est encore mieux. Il faut continuer à développer l'emploi locaux, les savoir-faire locaux, et c'est comme ça qu'on avancera tous ensemble vers une meilleure économie, bien sûr.
Et comment vous voyez l'avenir pour ce projet ?
Pour l'instant, l'avenir, on espère forcément se développer au niveau local, premièrement, essayer d'avoir un maximum de contacts et de clients pour ensuite aller, bien sûr, du côté, aller chercher les commandes au niveau national. Et puis, pourquoi pas développer des produits en parallèle ou des produits avec de nouvelles utilisations en supplément, proposer un service en plus. Pourquoi pas? Après, forcément, on va avoir aussi des partenaires qui commencent à venir nous voir pour essayer de construire une offre ensemble. Après, ça, c'est plein de choses où on communique encore pas dessus, mais forcément, les projets, ils sont là. Il n'y a pas que la commercialisation de cet abri. Il y aura plein de choses qui risquent d'arriver dans les mois à venir.
Pour les collectivités et entreprises intéressées, cet abri vélo coûte 45 000 euros. Il est aussi possible d'avoir une subvention jusqu'à 15 000 euros pour développer un plan vélo. L'abri vélo Vélios devrait bientôt être en démonstration au centre-ville de Bourg-en-Bresse.
À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute.
Et on se retrouve lundi prochain à 18h sur le 90FM pour une émission spéciale Précarité alimentaire, un magazine en direct de la Banque alimentaire de l'Ain. En attendant, belle semaine sur nos ondes.
On n'ira pas aller chercher les enfants handicapés pour faire des activités, c'est nous, parents, avec des associations ou d'autres structures, qui devons faire le nécessaire.
Il n'y a rien à faire. Du coup, on propose un accueil jeune. Tu peux venir ici pour te détendre, pour t'amuser.
Ce que j'aime dans la lecture, c'est que quand on met de l'émotion dedans, c'est comme si on faisait aussi du théâtre.
Il y a pas mal de personnes qui pensent comme nous sommes des étrangers. Il y a plus de négativité que de positivité en nous. On est venu ce soir pour montrer notre face positive.
On passe du stade d'un combat féministe à vraiment à un combat sociétal.
À vous, les Burgiens.
Présenté par Inès Lombartet et Audrey Radondi.